Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, ce matinal spécial pouvoir d'achat sur RMC. Plus 27% pour le café, plus 20% pour le chocolat, plus 12% pour la viande hachée. Les prix vont-ils continuer à flamber l'an prochain? Bonjour Nicolas Facon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le patron de Lilec. Lilec, ça représente tous les gros industriels de l'alimentation. C'est les marques qu'on a dans nos frigidaires. C'est Danone, Fleury Michon, Panzani, Le Sieur, Herta. J'en cite quelques-uns, mais parmi un très grand nombre. C'est aujourd'hui quasiment le coup d'envoi de votre Coupe du Monde à vous, c'est-à-dire la négociation des prix. Vous avez 3 mois, pas un jour de plus, pour vous mettre d'accord, vous, les grands industriels, et face à vous, la grande distribution. Et c'est maintenant que se décident les prix qui seront in fine dans nos rayons. Ça monte ou ça descend ?
Alors déjà, peut-être une précision, ce qui se discute pendant ces négociations, c'est les prix entre les industriels et les distributeurs. Le prix final payé par le consommateur, ce sont les distributeurs qui le décident.
Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils vous achètent à un certain prix qu'ils vont pas, eux, derrière, gonfler ces prix. Vous n'avez aucune maîtrise, c'est-à-dire que Danone, Herta ne gèrent pas le prix qu'on va finalement payer dans le rayon.
Non, parce que finalement, ce prix-là, ce prix du commerçant, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du coût aussi et des charges qu'ont les commerçants, mais ça dépend aussi de l'intensité concurrentielle qu'il peut y avoir entre les enseignes. Voilà, donc...
Vous dites ça comme si c'était une forme de... vous voulez dire dès le début, attendez, en fait, quand même, ceux qui fixent les prix à la fin... C'est les distributeurs.
Oui, c'est la loi, c'est le commerçant qui décide de son prix et l'industriel n'a pas le droit d'intervenir sur la fixation du prix et c'est bien comme ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut juste avoir cette précision-là. Là, ce qui se joue maintenant, entre maintenant et le 1er mars, c'est les prix entre l'industrie et la distribution.
Alors on sait qu'évidemment, aujourd'hui, c'est le jour où vous allez chacun dire ben, plus 5, non plus 2, non moins 1, non moins 3 et à la fin, vous arriverez à vous mettre d'accord. C'est une négociation d'ailleurs parfois dans la douleur, franche, voire même brutale. Mais pour qu'on comprenne bien et qu'on puisse suivre ce chemin avec vous, au moment où on se parle, sur quel type de hausse sont les industriels ?
Alors pour moi, c'est trop tôt pour vous le dire, parce qu'en fait, les industriels ont jusqu'au 1er décembre pour envoyer leur demande tarifaire. Donc la demande tarifaire, c'est ce que demandent les industriels, c'est le démarrage de la négo. Bien évidemment, entre la demande initiale et le résultat final, il va se passer effectivement ces 2-3 mois de négociation. C'est pour ça que moi je peux pas vous dire aujourd'hui quels seront les tarifs. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que on n'est pas dans une période d'inflation, c'est d'hyperinflation. On l'a vécu, on l'a tous vécu depuis 2022, 2023, et ça a été colossal à la fois pour les consommateurs, mais également pour toute la chaîne qui part des agriculteurs, des industriels, des distributeurs jusqu'aux consommateurs. Et aujourd'hui, on est revenu à une inflation qui est très très modérée. Depuis le début de l'année, elle est à plus 1% en fait sur les produits dans la consommation, plus 1,3 pour être très précis.
Ça donc, devrait se maintenir. Vous pensez que
oui,
si on se projette dans un an, on est sur ce genre de trajectoire?
Je pense. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que si inflation il y a, elle sera contenue, elle sera modérée.
Vous avez dit, il y a toute la chaîne. Je voudrais qu'on donne tout de suite la parole justement à un éleveur bovin. Il s'appelle Emmanuel. Il vit en Vendée. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Apolline.
Emmanuel, vous-même, vous êtes éleveur. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là de ces négociations? Au fond, vous, votre partie, elle est jouée, elle est déjà derrière, puisque la vente aux industriels et la négociation entre les agriculteurs et les industriels, c'est avant. Maintenant, c'est entre les industriels et la grande distribution que ça se joue. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu et d'avoir été payé au juste prix?
Aujourd'hui, on est mieux payé qu'on l'a été. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que même qu'on est mieux payé, les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, le lait et la viande, enfin moi je suis producteur des deux,
ouais.
Donc je suis bien placé pour le savoir. Le lait, avant même que ces négociations-là commencent, nos coopératives qui nous achètent notre lait nous ont déjà annoncé une baisse du prix du lait. Donc si derrière ça, je comprends pas pourquoi les négociations n'aboutiraient pas à la baisse, nous on nous annonce déjà des baisses. C'est déjà scandaleux. Il n'y a pas une négociation de passé avec les grandes surfaces que nos industriels nous annoncent déjà des baisses.
Vos industriels, c'est, alors je ne sais pas en l'occurrence qui c'est pour vous,
mais on va prendre des grandes coopératives style Agrial, tout ça, c'est des boîtes qui annoncent des baisses de prix.
Et qui fournissent derrière Lactalis, Danone. Justement, je voudrais que Nicolas Facon puisse vous répondre. Ça veut dire qu'au fond, au tout début de la chaîne, c'est-à-dire au moment des producteurs laitiers par exemple, quand on leur dit ça va baisser, à la fin, on devrait retrouver des prix à la baisse dans nos rayons. Qu'est-ce qui se passe entre les deux?
Alors déjà, il faut, pour bien expliquer, c'est ce que cet éleveur a dit, c'est-à-dire qu'il y a le prix entre l'éleveur et le transformateur, qui est lié effectivement à un certain nombre de discussions, de négociations, mais il y a aussi l'influence des cours mondiaux. Malheureusement pour l'agriculture et particulièrement pour l'agriculture française.
C'est quasiment de la spéculation.
C'est à la fois de la spéculation, parfois, parce qu'on voit qu'il y a des fonds d'investissement qui peuvent spéculer sur les matières agricoles au niveau mondial, donc ça joue, mais il y a aussi des effets d'offres et demandes au niveau mondial qui vont influencer sur les cours.
Oui, mais j'ai envie de dire dans ces cas-là, pourquoi ça baisse jamais?
Il y a des baisses.
C'est rare quand même qu'à la fin on voit des baisses dans les rayons. Moi, j'ai rarement vu des prix du lait qui baissent.
Alors, c'est là où on a toute une chaîne en fait, et quand vous avez des fluctuations très importantes, parce que c'est le cas en fait, hein, depuis 2020, on a des fluctuations très importantes des cours de matières premières, et notamment des cours de matières premières agricoles. Le but des entreprises, c'est de lisser en fait ces mouvements de va-et-vient, et d'essayer d'avoir des couvertures longues. Donc, quand ça monte, quand la matière première explose, vous retrouvez pas toujours des hausses de prix correspondantes, et inversement quand ça baisse aussi. Donc il y a un temps d'adaptation, et il y a un temps de répercussion, et il y a un phénomène d'amortissement.
Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce que vous nous dites, hein, Emmanuel, c'est important de le souligner, c'est que vous dites vous êtes quand même mieux payé qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que cette fameuse loi qu'on appelle la loi Egalim, qui garantit désormais que les agriculteurs restent payés pour la marchandise.
Oui, tout à fait. C'était le but, hein, de ces lois Egalim, c'est de travailler sur la souveraineté agricole et alimentaire et de faire en sorte que le revenu des agriculteurs soit mieux pris en compte. Ce qui est important de dire, et c'est ce qu'a dit cet éleveur-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend le cours du lait ou le cours de la viande de bœuf, il est très élevé. Et ça faisait très longtemps qu'il avait été aussi élevé. Par contre, ce qui s'est passé aussi, c'est que les coûts de production agricole pour les agriculteurs ont considérablement augmenté. Les engrais, le gasoil, etc., etc. Donc effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que à la fois ils bénéficient de cours très élevés, mais à la fin du fin, pour eux, il n'y a pas eu forcément une amélioration nette.
L'année dernière, le président de l'ANIA, qui représente aussi des grandes marques comme vous, avait dit de la grande distribution, je cite, qu'elle écrase les industriels. Est-ce que vous redoutez à nouveau, malgré une charte de bonne conduite que vous avez signée hier, que ces négociations se fassent dans la brutalité?
Alors cette charte, elle est importante et on va y revenir. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez une situation qui est très déséquilibrée. C'est-à-dire, si on prend le cas des produits alimentaires, vous avez aujourd'hui 400 000 agriculteurs en France, vous avez 20 000 entreprises qui transforment en fait cette matière première agricole en France, et il reste aujourd'hui 3 centrales d'achat en fait pour négocier.
C'est-à-dire qu'on part de 400 000 agriculteurs, ouais, 20 000 grandes marques d'industriels, et à la fin il y a 3 centrales d'achat.
C'est ça.
Ça veut dire qu'il y a une concentration maximale des distributeurs. C'est un entonnoir. Vous êtes pris dans un entonnoir.
Voilà. Et donc le but de cette charte, c'est de faire en sorte que face à cette concentration des acteurs, on puisse retrouver un cadre apaisé et normalisé des négociations.
Enfin, moi, j'ai quand même halluciné parce que je l'ai lu, cette fameuse charte, oui, que vous avez signée ce week-end. Et dedans, il y a des phrases comme, par exemple, « Nous devons, dans la mesure du possible, respecter les horaires fixés pour les rendez-vous. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en creux, on en comprend que dans les négociations, tout est bon à prendre, y compris le fait de vous faire patienter pendant des heures dans des salles, pour que quand vous arrivez pour négocier enfin le prix avec la grande distribution, vous soyez prêt à craquer, quoi, finalement.
Oui, mais c'est bien ça, en fait. Hein. Cette charte, en fait, c'est vraiment un symbole et un changement d'état d'esprit. Et c'est important parce que tout part de l'état d'esprit. Comme vous le dites, en fait, il y avait des comportements aujourd'hui qui n'étaient pas acceptables. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tension économique. Derrière, il y a des comportements qui dérapent. Et comme il y a des comportements qui dérapent, on a encore plus de tensions. Donc finalement, c'est ce système-là qu'il faut casser. Et il faut revenir à des comportements normaux. C'est le premier axe de cette charte qui vise effectivement à instaurer un climat apaisé.
Michel-Édouard Leclerc sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Vous avez quelque chose à lui dire?
Non, mais Michel-Édouard Leclerc, comme l'ensemble des distributeurs, a été co-signataire à travers la Fédération du Commerce et l'ensemble des industriels. Je pense qu'on a là l'occasion unique, parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps, hein, ces négociations, elles se passent mal depuis très longtemps, de faire différemment, en tout cas d'essayer. Et encore une fois, toute une question de comportement et de volonté.
Merci beaucoup. Merci Nicolas Facon. Ça se lance donc aujourd'hui, ces négociations commerciales. Vous reviendrez régulièrement. Vous avez 3 mois donc pour constituer ces fameux prix qui seront les prix qu'on paiera dans nos rayons. Et merci aussi à Emmanuel, éleveur en Vendée.